source.
What? Vas-y, stop. Ah. Métro. Pique ton cœur, Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'histoire sur votre radio associative préférée, Anti-Histo-Amétropique, votre traitement contre la mauvaise vue historique. L'objectif est de vous faire découvrir l'histoire proche ou lointaine géographiquement parlant. Et là, on commence en Limousin avec une histoire méconnue et qui perd en puissance malheureusement avec les années. Je vous parle des croyances et sorcelleries limousines. Avec le départ de nos anciens, ces traditions qui étaient autrefois vivaces ont tendance à disparaître. Notre premier épisode était centré sur la magie blanche, c'est-à-dire celle qui est censée vous adoucir la vie et qui soigne essentiellement. On reprend avec les mages capables pour trois fois rien, voire même parfois sans paiement, de faire les premiers soins ou traiter les maux les plus graves. C'est ainsi que la plupart savent arrêter les hémorragies, soigner les maladies de peau, mais aussi les brûlures. C'est l'un des pouvoirs qui est encore connu de nos jours et toujours utilisé. Gaston Villiers nous en fait une description. Comme d'autres aussi, dit-on, il sait charmer le feu, c'est-à-dire endormir la douleur des brûlures, empêcher le progrès du mal et amener la cicatrisation dans les 48 heures. Dans l'opération à laquelle il se livre et qu'accompagne toujours des mots inconnus et des rites singuliers, le sorcier circonscrit la brûlure à l'aide de son pouce mouillé de salive. Puis il souffle sur la plaie par trois fois consécutives et recommence jusqu'à insensibilisation de la partie atteinte. On prétend que l'opération produit une sensation de chaleur intolérable et des picotements insupportables auxquels succède l'insensibilité. Généralement, on applique ensuite un cataplasme d'œuf dur dont on reprend le jaune seul que l'on délaie dans de l'huile. Cette bouillie est renouvelée soit au coucher, soit au lever du soleil. Nous avons donc vu précédemment que la magie était utilisée par des personnes ayant des dons naturels particuliers appelés mages. On pourrait croire donc qu'il y avait des sorciers et les moldus. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les gens lambda peuvent aussi très bien utiliser la magie. D'ailleurs, la magie ne découle pas uniquement des dons innés. Non, ce n'est pas pour rien que les mages sans enfants prenaient des apprentis non issus de leur famille. Cependant, certaines capacités comme mener les loups ou soigner certains maux ne se partagent pas par l'apprentissage. Pour le reste, ce sont des secrets qui s'apprennent, mais tout le monde ne peut pas y avoir accès. En effet, apprendre le bon nécessite d'apprendre aussi le mauvais, afin de toujours bien reconnaître le mal et savoir l'indiquer ou l'éradiquer. On ne fait pas confiance à tout le monde. Les forgerons peuvent par exemple soigner les fièvres et maladies gastriques en pratiquant ce qu'on appelle le martèlement de la rate. On allonge le patient nu sur une enclume et le forgeron le tient par la nuque. Et ensuite... Un effroyable rugissement tout à coup fait trembler les vitres. En même temps, le bras de chasage se lève et s'abaisse. Le marteau frappe l'enclume avec violence. Le corps de l'enfant est tout secoué par des frissons. Un autre cri sauvage retentit. De nouveau, le marteau tombe sur l'enclume dont les vibrations métalliques font tressaillir un instant la forge. Chazal pousse un troisième rugissement plus effroyable encore. Cette fois, le marteau retombant s'arrête net au-dessus du ventre du malade. Puis, doucement, il vient frôler l'épiderme. Voilà, vous venez d'assister au rite du martèlement de la rate. L'idée est de soigner grâce aux vibrations, mais aussi en vous provoquant une peur salvatrice censée faire réagir votre corps. On retrouve ces méthodes de soins par vibration dans de nombreuses cultures et notamment en Asie. Et il est prouvé aujourd'hui que face à la peur, notre cerveau est capable de prouesses comme notamment supprimer la sensation de douleur. Et si on a pas mal, on est en partie soigné, non ? C'est ce que pensaient bon nombre de petites gens. Et voilà, c'était encore un morceau tiré de l'œuvre de Joe Hisashi, compositeur de la bande originale d'un autre film d'animation de Miyazaki, cette fois-ci Le Château Ambulant. Un monde en pleine industrialisation avec encore des magiciens et sombrant dans une guerre effroyable, non sans rappeler la Première Guerre mondiale. Là encore, ça a plutôt l'air de bien coller avec la campagne limousine. C'est après ce conflit qu'elle commença à vraiment se dépeupler, faisant ainsi disparaître peu à peu les légendes au profit de la rationalité. Il existe aussi de nombreuses méthodes pour détourner les maléfices, donc, ou s'en protéger, comme par exemple le rite de la fausse vente.
C'est à la campagne que l'on rencontre le plus grand nombre de pratiques permettant de chasser le mauvais sort. Ici, il n'est pas question d'argent. Les secrets transmis de génération en génération sont utilisés gratuitement. C'est un service que l'on se rend entre voisins lorsque, par exemple, comme ici, le mauvais sort s'abat sur un troupeau.
J'avais les moutons là qui ne venaient pas à leur espèce. J'avais le mouton, le père quoi. Et puis ça ne venait pas à l'espèce. Jamais j'avais de rapport. Mais j'ai dit, bon sang, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui se passe? Alors, je sais pas, même pas un homme, je trouve M. Delage là. Je trouve M. Delage, il me dit, tu vas voir, il dit, on va procéder à une vente. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça y fera? Il a dit, il y a un remède, il dit, on va procéder à cette vente. Oh, ben j'ai dit, s'il n'y a que ça. J'ai dit, on verra bien. On peut décalculer.
À droite, l'acheteur, celui qui connaît le rite. À gauche, le propriétaire. La discussion s'engage comme pour une vente réelle.
Que l'eau. On n'a pas avantage.
Ah, bien sûr.
Je voudrais une très grande pichou.
Qu'est-ce oh. Allez, nous pouvons le mettre à 40 000 en pêche, tout.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Allez, parce que j'ai 50 000 en
ouais, allez.
Allez. Allez, d'accord, allez.
L'acheteur donne une pièce en acompte. Symboliquement, le troupeau passe d'un propriétaire à un autre. Le mauvais sort est détourné, le malin trompé.
On a procédé à cette vente, et puis depuis, mon Dieu, ça a l'air de mieux aller. Je ne sais pas si ça y a fait ou quoi, mais ça a l'air de mieux aller, et ça vient à leur espèce, ça produit. Maintenant, ce n'est pas plus long, je ne peux pas vous dire mieux.
Voilà, le sort empêchant la bête de vivre normalement n'a pas été jeté directement contre elle, non, mais sur son propriétaire. Il suffit donc de simuler une vente, la bête change ainsi symboliquement de propriétaire, le nouveau maître n'étant pas maudit, le sort disparaît. C'est typiquement le genre d'astuce que tout le monde peut produire sans utiliser la magie. Pour vous donner un autre exemple, on peut prendre une ancienne pratique qui se faisait sur les arbres fruitiers. Sachez que nos ancêtres ne prenaient pas du tout à la légère la qualité de l'arbre en tant qu'être vivant. Pour eux, les arbres avaient une conscience, communiquaient entre eux et comprenaient le langage des hommes. C'est prouvé par certains faits, comme la vigne qui profite toujours quand elle est à côté de l'orme, de même que le figuier et le platane. Et si vous êtes un peu au courant de l'actualité scientifique, vous devez savoir que c'est dorénavant prouvé. En effet, les arbres communiquent à travers les champignons notamment. Il nous aura donc fallu presque 150 ans pour redécouvrir ce que nos anciens savaient déjà. Donc, en partant de là, les habitants du Limousin avaient pour habitude, les après-midi de Mardi Gras, de ceinturer les arbres fruitiers d'un lien de paille pour distinguer ceux qui s'entêtent à ne pas produire. Les arbres comprennent qu'ils sont marqués pour être coupés, et l'année suivante, figurez-vous, que ces arbres produisaient finalement des fruits, et souvent de quantité et de bonne qualité. Certaines personnes aussi, sans pour autant bénéficier de réels pouvoirs, sont réputées pour apporter la chance autour d'eux. On dit qu'ils sont jovents.
Il y a en Limousin ce qu'on appelle la jovance. Celui ou celle qui est jovent porte chance. Il peut à l'occasion, comme nous venons de le voir, chasser le mauvais sort sans pour autant en être à l'abri. Il faut, pour être jovent, posséder certaines qualités.
Et quelqu'un qui est jovent, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Quand il vend quelque chose à ses voisins ou à un étranger,
Ils souhaitent que ça profite.
A l'inverse, les Maljovans sont naturellement malchanceux et le font partager non intentionnellement. C'est considéré un peu comme une maladie. On a pitié de lui. Mais pour ne prendre aucun risque, on s'en approche pas. Il porte le mauvais œil, comme nous l'apprend ce témoignage. L'an dernier, pour le maïs, cet homme était venu voir parce que nous ramassions le maïs. Il n'y avait que 2 ou 3 tours à faire, mais impossible de les faire. Une fois, c'était une chose, une fois, l'autre. Il y avait toujours quelque chose qui se détraquait sur la machine. Il fallait s'arrêter et chercher la panne. Tantôt c'était une goupille, tantôt c'était une dent qui se détraquait, ici ou là. Il le fait, mais sans méchanceté. C'est son mauvais œil. Ces personnes doivent donc prendre des précautions pour ne pas faire le plus de mal. Le problème, c'est que des fois, on n'est pas au courant qu'on est Maljovan. Donc, des pratiques sont mises en place pour éviter les problèmes, comme la pratique d'offrir de bon cœur une petite pièce à la mère d'un nouveau-né pour ne pas lui emporter le lait, comme disent les anciens. Si tu vois un petit pour la première fois, et si la mère l'allait, si tu n'es pas Maljovan, ça ne lui ferait peut-être rien. Mais si tu es Maljovan, tu emportes le lait de la mère. Alors il faut donner une petite pièce, aussi petite soit-elle. Si tu lui la donnes, mets de bon cœur. C'est bon. Aujourd'hui, souvent on apporte un cadeau. Autre moyen de se désensorceler, la riposte. Ainsi l'ensorceleur perd son emprise ou alors est dissuadé de recommencer. C'est le cas par exemple avec la technique de l'envoûtement par l'image reflétée. Voici une retranscription de la scène par Gaston Vullier en 1900. Regarde dans le clapotement. Ne vois-tu rien ? Elle regarde. Ses yeux s'agrandissent, pleins de lueurs. Je vois, dit-elle. Des choses qui tournent, on dirait des yeux méchants, qui passent, noyés dans l'eau. Regarde encore, dit le sorcier. Et son doigt pointe vers le liquide agité. Rien, encore. Subitement, elle pousse un cri, elle voit. Là ! Là voilà, c'est bien elle, la mauvaise. Ah ! Frappe donc, clame le sorcier. La lame plonge comme l'éclair dans l'image qui s'évanouit. Quel est ce mystère ? Est-il dû à la suggestion qui appelle dans le saut magique le visage d'une personne soupçonnée ? On dit que le sorcier réussit lorsque l'eau bénite a été impuissante, que le lait revient à partir de ce moment au pis de la vache. On dit aussi que la lame du couteau s'est enfoncée dans la prunelle de l'image et que la personne ainsi évoquée a subi une action de réflexe dans son œil même, qui est parfois sérieusement atteint. Quoi qu'il en soit, nous pouvons constater à tout instant que les borgnes excitent la méfiance en Limousin. Ils sont réputés enclins à s'emparer facilement et sans aucun scrupule du bien d'autrui. Voilà, comme quoi les choses vont parfois très vite, n'est-ce pas ? Pour terminer avec la magie blanche, on ne peut pas passer à côté du moyen de base de défense, l'amulette, composée le plus souvent de sel, d'eau bénite ou de reliques religieuses ou non.
Regardez, c'est du sel. Du sel béni, du sel ordinaire béni. Alors, j'ai derrière mon coussin, ma femme et moi, on a chacun un petit sac, un peu plus grand que ça. Dessous, il me dit, il faudra mettre dessous votre traversée. Tenir du sel partout. Et avec ça, il dit, personne ne pourra agir dessus.
Voilà, notre second épisode prend fin. Je me suis particulièrement basé sur l'œuvre de Marie-France Houdard, L'eau, le diable, les saints, retour aux sources. Et je m'appuierai encore sur ce livre pour vous parler dans le 3e épisode de la place de la religion catholique dans ses croyances. Et je vous parlerai aussi du culte des sources en particulier, très présent en Limousin. Si vous avez des témoignages ou des recherches sur ces pratiques, vous pouvez m'en faire part à martin@radiobassivière.com. J'en ferai sûrement un épisode suite. À la semaine prochaine!
Ah, mais trop.
Caroline.